chères auditrices et chers auditeurs, bonjour. Nous continuons donc notre série très très importante, bien que cela ne me fait pas plaisir, pas du tout. Je ne suis pas quelqu'un qui a plaisir de faire peur aux gens ou de les angoisser. Par contre, je dois, c'est mon devoir, de vous communiquer la vérité telle qu'elle est. Je ne peux pas tergiverser là-dessus, quand j'aurai des comptes à rendre. Il est vrai que, et je le répète, que cette série ne va pas plaire à de nombreux chrétiens, mais c'est la stricte vérité qui est annoncée. Du reste, les indications bibliques, je ne les prends pas dans un autre volume ou sur un autre registre quelconque, mais uniquement de la Sainte Bible. Donc vous pouvez vérifier. Si vous voyez que ça ne correspond pas, eh bien vous jetez tout à la poubelle. Mais si vous voyez que ça se correspond à votre saint livre, alors ça mérite de réfléchir. C'est fait pour ça. Vous savez, moi-même, je suis pas, je ne sais pas si on peut dire une sainte nitouche. J'ai beaucoup de fois chuté. Et je dois vous dire que j'ai honte de vous avouer que j'étais loin de ce qu'il faudrait que je sois pour plaire au Seigneur. Et s'il ne m'avait pas donné la vie très longue, eh bien je ne sais pas, je ne suis pas très sûr. Je vous l'avoue que je serais allé automatiquement au ciel, simplement parce que je allais de temps à autre dans une église. Non, 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 ça ne va pas comme ça. Vous savez, je crois que tous les chrétiens se rappellent quand le Seigneur a dit qu'il préfère, je ne dis pas qu'il préfère, mais il vaut mieux être froid ou bouillant pour le Seigneur, mais tiède entre deux, eh bien c'est le pire. Être un peu chrétien, faire partie d'une dénomination quelconque et simplement revivre pendant la semaine comme on veut, comme ça nous fait plaisir, c'est pas tellement le truc qui est recommandé. Alors le titre d'aujourd'hui, c'est la prédication de la croix. La prédication de la croix. Il est dit dans Corinthiens 1, verset 2, car je n'ai pas jugé que je dusse savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il y a dans la révélation du calvaire par le Saint-Esprit et dans toute l'œuvre merveilleuse de la croix une puissance qui crée dans le cœur du racheté un désir intense qui est pareil à un feu ardent qui le fait soupirer après le fruit du travail de son âme. Ce désir devient même la passion de sa vie et détruit tout désir de gain ou d'intérêt personnel. La vie et les paroles de l'apôtre nous révèlent cette sainte passion dans toutes ses épîtres et en particulier dans celle qu'il écrivait aux Corinthiens et où il leur déclare qu'il est résolu à ne leur prêcher autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et ça, c'est la vérité absolue. Nous ne pouvons pas nous faire une idée de ce que cette décision a dû coûter à l'apôtre, car le christianisme a dès lors relevé et réhabilité la croix qui, à cette époque, n'était que l'instrument de supplice pour les plus vils criminels, et elle correspondait à tout ce qui éveille en nous le mot de gibet. Voyez-vous, pour que le fier pharisien en arrivât à se glorifier de cette croix, quel miracle ne fallait-il pas par une révélation directe du Seigneur ? Prêcher un gibet pour le salut du monde, il n'est pas étonnant qu'on l'ait cru un peu zigzag, un peu fou. Et pourtant, il écrit aux Corinthiens, « Je n'ai voulu savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » La ville de Corinthe pouvait se vanter de sa culture intellectuelle, mais pas du tout de sa morale, et tout en s'occupant de littérature et de philosophie, elle vivait dans l'immoralité la plus grossière. L'apôtre doit s'être posé la question de savoir s'il fallait qu'il apportât aux Corinthiens un message adapté à leur sagesse humaine et à leur culture intellectuelle alors qu'ils se préparaient à leur écrire. Il aurait été parfaitement capable de les rencontrer sur le terrain et avec les armes de la sagesse humaine. Pourquoi ? Parce qu'il avait fait des hautes études à Tarse, qui était considéré par beaucoup comme bien plus avancé qu'à Athènes au point de vue intellectuel. Il avait de plus fait son droit hébraïque, c'est-à-dire la loi, à Jérusalem. Puis il était citoyen romain, et s'il l'avait voulu, il aurait même pu occuper un poste honorable et se montrer l'égal du plus respecté des docteurs de Corinthe. Et qui plus est, il savait très bien, lui l'homme, au regard perspicace, il savait ce qu'on dirait de lui s'il s'y refusait. Il savait bien que la prédication de la croix serait taxée de pure folie, et lui-même d'exalté et de fou. Du reste, c'est pareil aujourd'hui. Et bientôt, ce sera même pire, selon les prophéties. Eh bien, envers et contre tous, l'apôtre choisit résolument le chemin de la foi et, mettant de côté toutes les armes charnelles, il prêche hardiment un Messie crucifié et s'en remet complètement à la puissance du Saint-Esprit pour inspirer et pour revêtir ce message de sorte que tous ceux qui ont cru furent persuadés non pas par les paroles de la sagesse humaine, mais uniquement par la puissance de Dieu seul. Cette décision de l'apôtre, elle nous montre jusqu'où il s'est oublié lui-même pour ne penser que à son message. Oui, voilà, chers amis, les messagers qu'il nous faut de nos jours. À l'entrée de ce 21e siècle, nous nous trouvons à peu près dans les mêmes circonstances et nous avons à faire face aux mêmes difficultés que celles de l'apôtre dans Corinthe l'intellectuel. Et les messagers de Dieu doivent eux aussi, ou devraient, résoudre cette question, savoir si ils veulent se servir d'armes charnelles à des paroles de la sagesse humaine, ou bien s'ils veulent rendre leur témoignage à la croix de Christ sans autre arme que celle de la puissance du Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens chapitre 2 versets 1 et 4, il dit « Et pour moi, mes frères, j'ajoute mes sœurs, quand je suis venu parmi vous, je n'y suis point venu pour vous annoncer simplement des balibernes, car le témoignage de Dieu avec la supériorité du langage ou de la sagesse humaine, c'était pas ce que je voulais prêcher, mais uniquement la sainte parole de Dieu. J'ai pris cela dans une version un peu particulière de l'abbé Crampon. L'apôtre avait fait la description des instruments que Dieu choisit pour accomplir ses desseins en ce monde. Les choses faibles, basées, méprisées, pour confondre les choses fortes et sages, oui, même les choses qui ne sont pas, pour confondre celles qui sont. Et moi, je ne suis point venu avec l'élégance du langage, nous dit-il, mais je suis venu dans la faiblesse, dans la crainte, dans le tremblement, pour proclamer le mystère de Dieu. Et Dieu a mis son sceau par une démonstration d'esprit et de puissance. Sans l'action de l'Esprit-Saint, rendant témoignage à la croix, celle-ci peut même devenir une pierre d'achoppement, car l'Esprit Tout-Puissant peut seul illuminer le message et convaincre l'âme, tandis que la raison seule le rejettera pour se tourner vers ce qui n'est pas toujours l'Évangile. Voyez-vous, l'adversaire de la croix ne sait que trop bien se servir du signe de la croix, croyez-moi, pour enchaîner les âmes qui n'ont pas fait l'expérience de la réalisation de la croix par la puissance du Saint-Esprit. C'est pas le tout de porter une croix autour du cou. Du reste, la prédication de la croix, elle ne dépend pas des paroles de la sagesse humaine, pas du tout, pour se manifester avec puissance. L'apôtre va même jusqu'à dire que la sagesse des discours rend la croix vaine, selon 1 Corinthiens chapitre 1, verset 17. Et voilà ce qui explique pourquoi la connaissance théorique de la mort de Christ donne si peu de résultats dans la vie réelle et pratique de milliers de chrétiens. L'homme-Dieu Jésus-Christ a livré sa vie pour le salut éternel des hommes et ses envoyés rendent parfois cette croix vaine et inutile, malheureusement. Mais de quelle manière la croix est-elle rendue vaine par la sagesse des discours humains? Cette sagesse humaine détourne l'attention du message pour l'attirer et pour le fixer sur le messager. Le calvaire doit être aux yeux de Dieu le thème le plus sacré de toute prédication, et il a le droit d'être jaloux de la gloire qui doit en revenir à son Fils unique et bien-aimé. L'histoire du calvaire doit donc être prêchée au monde qui périt dans toute sa tragique grandeur et avec la plus grande simplicité, les fleurs de la rhétorique humaine qui tellement accourt aujourd'hui, s'accordent aussi peu avec ce message divin que des fleurs véritables qui décoreraient la croix maudite. En un mot, il ne peut y avoir aucune place sur la croix ou dans la proclamation de cette croix pour ce qui est charnel et humain. L'apôtre Paul est lui-même comme une illustration de ce que Dieu réclame de ses serviteurs pour que leur prédication soit efficace. Nous voyons donc en lui et par lui que les ambassadeurs de Jésus-Christ doivent être des crucifiés. Nous devons être des crucifiés, et cela par la prédication même de la croix de Jésus-Christ. Pour que cette proclamation de la croix ait tous ses effets bénis, il faut absolument que celui ou celle qui s'en charge connaisse par expérience la puissance de l'Esprit qui rend témoignage à la croix. C'est ce qui ressort des récits que nous trouvons dans le livre des Actes, où nous sont racontés la mort et la résurrection du Fils de Dieu. Les hommes qui avaient assisté au drame sanglant au calvaire, oui, ceux qui avaient contemplé le ressuscité ont su rendre témoignage à sa résurrection. C'était là, pour eux, beaucoup plus et mieux que des faits historiques, plus qu'une doctrine ou qu'une vérité centrale. Martin Luther, il s'écrit un jour, « Il me semble que c'est hier que Christ est mort. » L'œuvre spéciale du Saint-Esprit est pour ainsi dire de révéler la croix ou de la dévoiler aux yeux et au cœur de ses messagers pour lesquels elle devient aussi réelle qu'elle l'était pour les apôtres. C'est lui, le Saint-Esprit, qui peint Christ crucifié devant eux, qui écoute le message et la passion pour le salut des âmes, qui naît uniquement au pied de la croix et qui consume tout désir de gloire et de louange humaine, de sorte que le héros de la croix, le cœur brisé, n'a plus qu'une seule pensée, prêcher Christ et Christ crucifié. Alléluia. C'est ce qui arriva à l'apôtre Paul alors qu'il s'écria « Malheur à moi !» Il a dit « Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile, et je dirais l'évangile tel qu'il est. » En face de la croix et de celui qui, en vue de la joie qui lui était proposée, a souffert la croix et méprisé l'ignominie, et tout orgueil disparaît totalement, et il est résolu à prêcher cette croix, quand bien même elle devient sa propre croix, et qu'il lui apporte comme à son maître le mépris et l'ignominie. Il est dit en 1 Corinthiens chapitre 1 verset 10, la prédication de la croix est la puissance de Dieu. La prédication de la croix, c'est la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 1, verset 10. Le mot grec rendu par puissance dans ce passage est dunamis, dont nous avons fait la dynamite. L'apôtre déclare donc que la prédication de la croix est la dynamite de Dieu. Cette expression ne signifie pas la force latente, mais cela signifie la force active, c'est-à-dire la puissance en action. dans la croix du calvaire, Dieu a pour ainsi dire centralisé sa puissance de délivrance envers un monde qui périt, de sorte que le message de la croix est l'expression de sa puissance en action pour tous ceux qui l'acceptent. Oui, la toute-puissance divine, l'omnipotence de Dieu sont à l'œuvre par cette prédication de la croix. Mais remarquez qu'il n'est pas question de prêcher sur la croix seulement, mais de prêcher la croix, non pas d'expliquer ce que la croix signifie, mais à l'exemple de Paul, prêcher Christ et Christ crucifié. Je répète, remarquez qu'il n'est pas question de prêcher uniquement sur la croix, mais de prêcher bel et bien la croix telle qu'elle est, non pas d'expliquer simplement ce que la croix signifie, mais à l'exemple de l'apôtre Paul, prêcher vraiment Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Voilà donc le grand fait, voilà la grande doctrine, voilà toute la théologie que nous devons prêcher. Chers amis, sommes-nous tous bien convaincus de la nécessité et de la puissance de cette prédication, prédication de la croix, sans vouloir y ajouter les paroles de notre vaine sagesse humaine? C'est la clé que Dieu a lui-même forgée pour ouvrir le cœur des hommes. La croix est faite pour moi, disait un chrétien, comme cette clé, elle est faite pour cette serrure. C'est beau ça. Écoutez encore. La croix est faite pour moi, a dit un chrétien, comme la clé que j'ai dans la main, elle est faite pour cette serrure. Et cela est vrai. Cela est vrai de tout humain, qu'il soit païen ou chrétien. Voyez-vous, ce message est appuyé par toute l'omnipotence divine, car c'est la puissance de Dieu, non seulement pour le pécheur ployant sous le fait du péché, mais aussi pour nous qui sommes sauvés. Ce message correspond à tous les besoins de l'âme et dans toutes les circonstances de la vie, à tous les degrés de la vie spirituelle et à toutes les crises et les détresses du racheté que nous sommes. C'est la puissance de Dieu. L'apôtre Paul dit, il y en a beaucoup qui ont une telle conduite. Je vous l'ai dit souvent et je vous le dis encore en pleurant, qu'ils sont les ennemis de la croix de Christ. Philippiens 3, verset 18, je répète. Il a dit, l'apôtre, il y en a beaucoup qui ont une telle conduite, hélas. Je vous l'ai dit souvent, et je vous le dis encore en pleurant, qu'ils sont, hélas, les ennemis de la croix du Christ. Philippiens chapitre 3, verset 18. La proclamation de la croix, elle éveille dans certaines âmes un antagonisme actif qui les rend ennemis de la croix. Ainsi que le déclare l'apôtre dans le verset précédent, cette inimitié contre la croix, elle a son origine dans l'attachement du cœur naturel à tout ce dont la croix cherche à le délivrer. Donc ceux dont le cœur est attaché aux choses de la terre se cabrent contre le message de celui qui veut les affranchir de ces choses qu'ils aiment malheureusement plus que lui, plus que Jésus-Christ. Ce que je vais expliquer n'est pas comment faut-il dire ça, une accusation méchante, pas du tout, mais c'est uniquement pour nous faire réfléchir. Et je pense que n'importe quel chrétien peut comprendre que aussi longtemps que Jésus-Christ n'a pas la première place dans ma vie, eh bien, je prends des gros risques, je pense, et j'en suis même convaincu, je prends des gros risques concernant la vie éternelle. Il est vrai que l'intelligence et la raison humaine s'achoppent à la croix. Mais cependant, cet antagonisme, elle a sa cause dans le domaine moral, dans le domaine moral aussi bien pour le pécheur que pour le racheté. Car le message de la croix n'est le bienvenu que pour ceux qui gémissent sous l'esclavage du péché et qui soupirent après la délivrance et qui ont faim et soif de la sainteté véritable. Vous êtes des ennemis de la croix, nous dit l'apôtre. Le prédicateur, qui viserait par exemple uniquement à l'effet par les discours de la sagesse humaine, a beau proclamer la croix, eh bien son message retentira en vain, car pour ceux qui regardent aux choses extérieures, ce sera un scandale en ce que la croix leur parle des délivrances et des choses du monde. Et pour ceux qui les aiment par-dessus tout, ils sont appelés ennemis de la croix parce que leur vie sont en directe opposition avec le but suprême de l'œuvre du calvaire. Oh oui, quel fait solennel, mes chers amis, quelle pensée terrible, être l'ennemi de celui qui est mort pour me sauver de moi-même. Tout en faisant profession d'être son disciple, oui, peut-être suis-je même un de ces messagers de la croix, rendant vain son message, non seulement en recherchant la gloire par les discours de la sagesse humaine, mais encore par mon attachement aux choses terrestres, puisque l'amour du moi est appelé inimitié de la croix de Christ. L'apôtre Paul dit en Hébreux chapitre 6, verset 6, « Il crucifie de nouveau le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. » Par ces paroles solennelles, eh bien l'apôtre nous déclare qu'il est possible de crucifier à nouveau le Fils de Dieu, et cela non pas par ceux qui l'ont repoussé et rejeté, mais par ceux-là même qui ont goûté la vie qu'il donne à tous ceux qui le suivent. Le Christ est donc maintenant hors de doute. On peut dire, le Christ est maintenant hors de toutes les atteintes du monde, ainsi que de Satan. Et ce n'est que par ces rachetés que nous sommes qu'il peut être recrucifié. On va voir pourquoi. Alors qu'ayant reçu le Saint-Esprit, ils le contredisent et retournent de leur libre choix vers les souillures du monde dont ils avaient été libérés, exposant ainsi à l'ignominie celui qui les a rachetés par son sang précieux. Triste de vous le dire, eh bien, il fut un temps, je faisais partie de ceux-là. Voyez-vous, ce passage nous fait comprendre la responsabilité de ceux qui ont reçu la lumière, car l'apôtre Pierre déclare solennellement qu'il vaut mieux ne pas avoir connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été transmis. Deuxième épître de Pierre, chapitre 2, versets 20 et 21. Oh, chers amis, que le Saint-Esprit veuille illuminer à nouveau pour chacun des rachetés cette croix du calvaire, afin de leur faire voir et de leur faire comprendre toute la laideur du péché et d'embraser leur cœur d'un tel amour pour le crucifié qu'ils puissent résister au péché jusqu'à la mort. Oh, que tous les chrétiens comprennent que chaque fois qu'ils cèdent à la tentation, ils crucifient, oui, ils crucifient le Sauveur à nouveau, qu'ils le lient à sa croix, qu'ils le clouent de nouveau, le font mourir une seconde fois. Lui, le Fils de Dieu, qui a souffert une fois pour les péchés, lui, le juste, pour les injustes, afin de nous amener à Dieu le Père. Premier épître de Pierre, chapitre 3, verset 18. Et on lui dira, « Que signifient ces blessures à tes mains ?» Et il répondra, « Ce sont les blessures qui m'ont été faites dans la maison de mes amis. » Zacharie, chapitre 13, verset 6. Je n'invente pas cela. Vous pouvez le trouver dans Zacharie, chapitre 13, verset 6. Hélas, trop souvent, nous, les enfants du Père, nous rouvrons les blessures de son Fils, alors que nous reculons devant la conformité avec lui en sa mort, et que nous nous refusons à abandonner les choses qui, dans notre cœur ou notre vie, devraient être livrées, devrait être lâché. Et trop souvent aussi, nous regardons le mal avec des yeux indulgents et nous contristons l'esprit de grâce, regardant comme étant vil le sang de l'Alliance. De nouveau Hébreux, chapitre 10, verset 29. Oui, mon frère, oui, ma chère sœur, veille sur toi-même et défie-toi ou méfie-toi des embûches du tentateur. Que jamais tu n'abuses de la grâce de Dieu en cédant à la moindre tentation dans la pensée que tu seras sûrement pardonné. Va savoir. N'appelle pas non plus infirmité. C'est ce qui m'est arrivé autrefois. Ce qui est péché, c'est trop facile de dire c'est dû à un démon, bien que c'était vrai. Mais il faut faire attention de ne pas prendre cela comme excuse. Cherchons à nous excuser aux yeux de Dieu. Puisque la mort de Christ t'a racheté, ma chère sœur, mon cher frère, la victoire sur le péché, donc, ne touche à rien, rien d'impur ni de souillé. Amen. Et je vous dirai, c'est un message très court, mais qui est 100% biblique, croyez-moi. Et je sens des fois, malgré que je suis au bout de ma vie, quand même, 92 ans, c'est pas 25 ans. Et je sens que des fois, qu'il y a des gens comme un Paul Henry, comme une Josiane, comme une Francine, etc. Comme une... Oui. Comme une sœur, pasteur, Reichenbach, Sabine, prie pour moi. Il prie pour moi, je le sens. Et c'est pour ça que je ne suis pas encore liquidé totalement. Mais j'en suis très très reconnaissant, croyez-moi. Et je dis merci, 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 1000 fois. La prochaine étude sera l'étude numéro 7, l'agneau Jésus-Christ au milieu du trône. Chers amis, rappelez-vous que Dieu vous aime vraiment. C'est un fait. Et il est merveilleux. Et donc, il est de mon devoir de vous aimer également de tout mon cœur. Et là, vous vous êtes tout près, ou même au Valais, ou encore beaucoup plus loin. Je vous embrasse tous et je vous dis oui, je vous aime et soyez bénis en et par Jésus-Christ. Prions maintenant, si vous le voulez bien. Seigneur notre Dieu, tu nous dis que tu es la lumière du monde. Tu dis que celui qui te suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Le ciel n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car c'est la gloire de Dieu qui l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Seigneur, tu nous dis, marchez pendant que vous avez de la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Oui, auprès de toi se trouve la source de la vie, et c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Merci de nous éclairer, car ta lumière arrive, car l'Éternel sera notre lumière pour toujours. Seigneur, nous voulons marcher comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Oui, Seigneur, tu es notre lumière. Amen. Et je voudrais maintenant vous mettre quelques chants d'un très lointain passé. Oh oui, oh là là. C'était pris sur des bandes magnétiques et c'est en ce temps-là, c'était la plus grande chanteuse de gospel qui s'appelait Mahalia Jackson, qui avait même chanté dans les plus grands auditoriums du monde. C'était quelqu'un d'exceptionnel qui faisait partie de l'Église baptiste des États-Unis. Voyons si ça fonctionne, parce que des fois ça rate, et puis des fois on n'entend presque plus rien, parce que c'était pris sur des bandes, figurez-vous, il y a plus de 60 ans. Ah là là, essayons. Thank you.
into God, loving her. one to care.
From the right. rising of the sun. But through the going down of the same, the Lord's name is to be praised. From the rising of the sun, but through the going down of the same, the Lord's name is to be praised.
Praise ye the Lord, praise all ye servants of the Lord, praise the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord from this time forth.
River flowing out through you. one faith, one law, one people, one nation. Praise the Lord. Alleluia. For the Lord my God, the Almighty reigns. Alleluia. For the Lord my God, the Almighty reigns. Let us rejoice and be glad and give the glory unto Him. Alleluia. For the Lord our God, the Almighty reigns.
Hallelujah, hallelujah, glory to the Lord. Hallelujah, hallelujah, glory to the Lord.
Jesus is risen from the dead.